Bonjour à toutes et à tous. Après le fiasco des masques en début d'année, après les ratés des tests, assistons-nous, allons-nous assister en le déplorant à un naufrage français des vaccins contre le Covid? Et si oui, comment expliquer ces bugs à répétition? C'est ce que nous allons tenter de faire dans cette première émission de l'an 2 de la pandémie. Très bonne année à toutes et à tous à propos. C'est ce que nous allons tenter de faire en croisant les approches de nos trois invités, Loris.
Alors, nos trois invités cette semaine sont tout d'abord Guillaume Rosier, qui est juste, enfin, diplômé depuis quelques mois, qui était encore étudiant et stagiaire en entreprise, spécialiste des données, lorsqu'il a lancé Covid Tracker, qui est devenu aujourd'hui un indispensable à la fois des médias et, semble-t-il, du gouvernement.
Covid Tracker lancé à peine depuis quelques mois.
Bonjour.
Bonjour.
Nous avons également avec nous Catherine Hill, vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne, spécialiste du cancer à l'Institut Gustave Roussy. Vous êtes désormais en retraite, mais en tant qu'épidémiologiste, vous faites partie des nombreux chercheurs retraités ou encore en activité qui suivent de près l'épidémie. Et vous avez ainsi notamment envoyé une note au gouvernement à propos de la stratégie de test que vous jugez totalement insuffisante. Nous avons également avec nous Aurélien Rouquet, vous êtes enseignant à Neoma Business School et vous êtes spécialiste de la logistique et plus spécifiquement pour notre émission de cette semaine, des chaînes d'approvisionnement.
Voilà, puisqu'on va parler beaucoup de, on va parler beaucoup de logistique dans cette émission à propos justement de la campagne de vaccins. Alors, l'année a clairement commencé avec un gigantesque auto-dénigrement médiatique français à propos du début de la campagne de vaccination. Auto-dénigrement, toute chaîne et tout média confondu, un petit échantillon.
La réalité, c'est comme, je vous entends, je vous écoute, c'est ce tableau quand même qui est assez édifiant. Regardez ce tableau. Voilà, le nombre de personnes vaccinées. Je ne voudrais pas jouer le râleur de service, mais bon, c'est le mois de janvier. Hein.
On fait plus mal que tout le monde. On est le dernier pays dans ceux qui ont déployé des campagnes de vaccination.
La vérité, c'est qu'on est déjà aujourd'hui la risée du monde.
Comment dire? C'est une déroute.
À mon sens, là, on est clairement devant un ratage.
Ces jours-ci, le gouvernement français est en train de s'humilier publiquement devant l'Europe entière.
Voir les chiffres du nombre de personnes vaccinées et voir à quel point la France est à la remorque des autres pays du monde, je trouve ça franchement désespérant et je trouve que la France, dans cette histoire des vaccins, elle est aujourd'hui ridiculisée.
Bon, on peut dire que l'unanimité est à peu près générale, à l'exception du gouvernement, évidemment, qui trouve que tout va bien et que tout va aller de mieux en mieux. On est d'accord. Alors, pour commencer simplement cette émission, est-ce que on assiste là à une sorte d'emballement médiatico-politique injustifié, ou est-ce qu'on a des raisons de considérer que le début de campagne française est une catastrophe? Votre opinion à chacun de vous trois, Catherine Hill.
Oui, c'est une catastrophe. Il y a 300 ou 400 morts par jour et on a des vaccins qui sont un vaccin très efficace et très sûr qui arrive. Il arrive de quoi vacciner 500 000 personnes par semaine. Et au lieu de s'en servir tout de suite, on tergiverse. Et les morts, c'est tous les jours. Et donc, si on veut arrêter ça, il faut vacciner massivement. Et 30% des morts sont dans les EHPAD. Donc, commencer par les EHPAD, c'était une bonne idée. Mais il fallait le faire et pas faire de la bureaucratie et pédaler dans la semoule.
Donc, vraiment catastrophe. Guillaume Rosier ?
Moi, je ne jugerai pas cette campagne vaccinale parce que je ne pense pas que ce soit mon rôle. Mais en tout cas, moi, j'analyse les données et tout ce que je vois, c'est que, évidemment, sur la première semaine, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vaccinés que les autres pays européens. Alors, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est en train de monter en puissance et ça va devoir monter en puissance et ça devrait monter en puissance encore plus dans les prochaines semaines. Mais il est clair que sur la première semaine, on a largement moins vaccinés que nos voisins européens, comme l'Allemagne, par exemple.
D'accord. Donc, l'homme des chiffres ne s'engage pas et reste sur les chiffres. Aurélien Rouquet ?
J'ai été assez critique, hein, comme je l'ai écrit dans Le Monde cette semaine sur le début de la campagne vaccinale. Je le serai
oui,
un petit peu
moins. Vous avez été très sévère dans Le Monde. Hein,
voilà, j'ai été très sévère et je le serai un petit peu moins aujourd'hui.
De toute évidence, la stratégie française se fracasse contre le mur du réel.
Voilà. Et alors, le titre, il est sévère, mais il parle de la stratégie, il ne parle pas de la logistique. Donc, je pense que... Il y a à la fois un problème stratégique au départ et, entre guillemets, un problème d'incompréhension de toute la logistique qu'il y avait derrière à mettre en place.
D'accord. Non, mais pour être clair, vous avez été très sévère il y a une semaine, mais là, vous l'êtes moins.
J'ai envie de l'être moins.
Vous avez envie de l'être moins.
J'ai envie d'être moins parce que je pense que derrière tout ce qui a été dit sur la lenteur de la campagne de vaccination, il y a aussi, entre guillemets, une incompréhension de toute la logistique qui est nécessaire pour aller jusque dans les EHPAD, qui est forcément plus lente à démarrer qu'une logistique qu'on met en place dans des vaccinodromes.
Alors, on va détailler tout ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous êtes devenu, vous, Guillaume Rosé, le fournisseur de data, de données, de quasiment tous les, enfin, d'un grand nombre de médias français, d'un certain nombre de politique aussi, étrangement. Et je parlais de cette campagne, de ce concert de déploration. Alors, un autre échantillon, c'est dans l'émission quotidien de TF1, et où on voit que Yann Barthès utilisait vos chiffres, Guillaume Rosier, pour effectivement stigmatiser le début de campagne français.
On est là en critique. Oui, les vaccins vont pas assez vite. Eh, regardez la courbe. On aimerait que ce soit nos économies. Sur le vertical, nous avons le nombre de vaccinés en France. Sur l'horizontal, nous avons les jours de vaccination. Mais comme à chaque fois, c'est toute une question de perspective. Nous sommes 66 733 000 personnes au dernier recensement français. C'est tombé la semaine dernière. Donc, on va replacer ce chiffre-là de la population française dans le graphique des vaccinations ici. Et tout est une question de perspective, en fait. Parce qu'à ce rythme, toujours selon le site Covid Tracker, il faudra 29 ans pour vacciner 1 million de personnes jusqu'en 2050. Et il faudra attendre l'an 3181 et que les voitures volent pour vacciner 60% de la population et avoir l'immunité collective. Bonne année à tous.
Bon, vous ratifiez cette utilisation qui est faite de vos données ?
Oui, quelque part, mon objectif, c'est premièrement de mettre à disposition les données publiques. C'est ce que je fais sur Covid Tracker. C'est la plupart des données qu'on retrouve sur Covid Tracker, c'est des données qui sont déjà disponibles, que Santé publique France, par exemple, publie de manière officielle et quotidienne. Mais donc, mon objectif, c'est de les mettre à disposition de tout le monde, donc de faire de la pédagogie, de les rendre accessibles et puis de les replacer dans leur contexte. Pour mieux se rendre compte des proportions, des dynamiques, des progressions, etc. Et donc là, typiquement, sur le vaccin, c'était ça. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait, la semaine dernière, quelques centaines de personnes vaccinées. Mais en fait, c'est quelle proportion par rapport aux Français et dans combien de temps, avec le rythme actuel, dans combien de temps on arrivera à vacciner 1 million de personnes ou tous les Français. Donc, je pense que c'est vraiment mon objectif d'essayer de contextualiser les données pour qu'on comprenne mieux ce que signifient ces données-là et qu'on comprenne mieux à quel point la vaccination est lente ou rapide.
D'accord. Vous avez dit pour la plupart, c'est des données qui sont dans le domaine public. Pour la plupart, ça veut dire pas toutes ? C'est-à-dire il y a certaines données que vous avez en exclusivité ?
Oui. Alors, sur la partie épidémique et sanitaire, toutes les données sont publiques et officielles. Santé publique France publie, par exemple, le nombre de cas quotidiens détectés, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, décédées à l'hôpital, etc., etc. Donc à ce niveau-là, tout est public et je ne réutilise que des données officielles. Par contre, du point de vue de la vaccination, donc j'ai lancé un outil qui s'appelle Vaccin Tracker sur Covid Tracker et qui permet de suivre la campagne vaccinale en quasi-temps réel. Et cet outil, je l'ai lancé il y a 10 jours alors qu'il n'y avait aucune donnée officielle. En tout cas, pas de données publiées régulièrement. À l'époque, il n'y avait même aucune donnée officielle du tout.
Et alors, j'ai commencé. Vous faisiez comment alors ?
Et alors, j'ai commencé en fait en piochant dans la presse régionale, en essayant de voir dans quel EHPAD il y avait eu combien de personnes vaccinées, et ensuite en additionnant ces nombres de personnes vaccinées que je trouvais et donc essentiellement dans la presse régionale, ou alors parfois par le biais de certaines personnes. Travaillant dans des EHPAD ou dans des centres hospitaliers. Et donc voilà, ça a commencé de manière très artisanale, mais c'était la seule manière que j'avais, moi, à mon niveau, de pouvoir comptabiliser le nombre de personnes vaccinées.
Et alors ça a duré combien de temps, cette espèce de pêche dans la presse régionale là ?
Ça a duré 3-4 jours, je pense, peut-être 4 jours, jusqu'à ce que le cabinet d'Olivier Véran ensuite me contacte pour essayer de me donner les données de manière un peu plus, enfin de me donner des données un peu plus officielles et un peu plus exhaustif, parce qu'évidemment, je n'avais pas l'ensemble du nombre de personnes vaccinées, parce que je ne peux pas avoir une exhaustivité sur la France.
C'est ça. Non, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous avez acquis un tel poids, si vous voulez, dans le débat public, qu'au bout de 3-4 jours, ils ont été obligés de vous appeler. Vous, qui, je le rappelle, êtes tout seul dans votre... je veux dire, il n'y a pas d'équipe autour de vous, il n'y a pas d'entreprise, vous êtes tout seul, j'allais dire, dans votre garage, ou presque, pour faire le travail que vous faites.
Exactement. Alors maintenant, on est 3 ou 4. Enfin, j'ai 2 ou 3 personnes qui m'aident. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur aide. Mais tout le travail qu'on fait est complètement bénévole. On le fait le soir ou le week-end en dehors de notre travail. C'est complètement bénévole. D'ailleurs, le site est complètement gratuit. Tout est libre. Tout est publié de façon open source, hein, de manière
Et c'est libre. Formidable, je le dis. Hein, c'est un outil vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi. Moi, je suis très impressionné par le fait que cet outil ait été monté comme ça en quelques mois, qu'il soit devenu le plus fiable, le plus reconnu, avec des données qui sont pour la plupart...
Mais il manque des indicateurs, à mon sens.
Ah bah oui, mais enfin, écoutez, franchement, il débute.
Non, mais écoutez, une épidémie, c'est un truc dynamique. Donc moi, je télécharge les mêmes données dans Santé publique France et je fais mon analyse aussi.
Qu'est-ce qui manque chez Covid Tracker?
Il manque le nombre de morts par jour, il manque le nombre d'arrivées en réanimation par jour et il manque le nombre d'arrivées à l'hôpital par jour, qui pour moi sont les 3 meilleurs indicateurs.
Et vous donnez
C'est dynamique. Il donne combien il y a de gens à l'hôpital, combien il y a de gens en réanimation, ça c'est statique, combien de lits sont occupés, mais je ne crois pas avoir vu la dynamique, c'est-à-dire combien de gens arrivent à l'hôpital, combien de gens arrivent en réanimation.
Guillaume Rosier, vous voyez, les clients ne sont jamais contents. C'est vrai que vous ne donnez pas
Bien sûr. Donc je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. Peut-être vous faites référence aux chiffres clés qui sont en haut du site, mais qui sont donc un résumé évidemment non exhaustif de la situation épidémique. Mais ensuite, sur le tableau de bord France, ce qu'on appelle le dashboard France, là on le voit à l'écran, juste en dessous de ces graphiques, il y a des liens pour accéder aux courbes qui représentent le nombre de personnes admises en réanimation et le nombre de personnes admises à l'hôpital chaque jour.
Ah, mais vous n'avez pas cliqué sur les liens.
C'est pas montré là. Le nombre d'arrivées.
Il faut cliquer sur admission.
J'ai pas cliqué, mais personne s'en sert. Moi, ce que je vois.
Attendez. Parce que donc Adèle a cliqué, et donc on y est là ou pas?
Et donc là, on a les admissions quotidiennes à l'hôpital, donc chaque jour de manière brute, et la ligne, c'est la moyenne glissante sur une semaine pour lisser les irrégularités.
Il fallait cliquer, Catherine.
C'est ça qu'il faut montrer en premier, et pas l'occupation des lits, qui est un problème de gestion hospitalière dont on se fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est la dynamique de l'épidémie. On veut savoir combien de gens arrivent à l'hôpital tous les jours. Donc ça, c'est le bon graphique, c'est celui-là qu'il faut montrer. Et la même chose pour les arrivées en réanimation. Entre parenthèses, vous commencez seulement en septembre, et qu'est-ce qui s'est passé avant? On peut reculer dans le temps?
Il y a la version complète aussi.
D'accord.
Mais sur vos conseils, je mettrai ces graphiques plus en avant, peut-être directement sur...
Arriver en réanimation, pareil.
Bon, mais c'est
morts tous les jours aussi. Bon, Ils sont où les morts tous les jours?
C'est formidable.
La courbe noire ici.
C'est les décès quotidiens. Vous voyez, Guillaume Rosier, on apprend tous les jours, c'est formidable. Au moins, vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui. Oui, Loris.
Je tiens à préciser qu'une des qualités de Guillaume Rosier, puisque je l'ai déjà eu à plusieurs reprises dans le cadre d'articles d'Arrêt sur Image, c'est que c'est quelqu'un qui écoute les critiques qu'on lui fait.
La preuve.
Et qui a tendance à être extrêmement réactif sur la manière dont il prend ou pas certaines données et la manière dont il les présente.
Donc c'est très important pour la mortalité d'expliquer la variabilité des données, parce que j'ai été sur d'innombrables plateaux de télévision où on vous donne le nombre de morts du jour sans qu'on ait jamais pris le temps d'expliquer que Santé publique France, dans ses 60 pages de rapport et tout son bazar, en fait, n'acquiert l'information sur les morts dans les EHPAD que le mardi et le vendredi. Donc, vous avez un nombre de morts qui passe subitement de 200 à 1000 le jour. Certains jours, on en a rajouté tout d'un coup 800 morts dans les EHPAD qui sont passés entre un mardi et vendredi. Donc on ne peut pas du tout donner le nombre de morts du jour, ça n'a aucun sens. Et on ne donne jamais le nombre de morts d'un jour où on a les données des EHPAD. On donne toujours un nombre de morts le lundi, parce que c'est le nombre de morts du dimanche, où il y a toujours moins de morts, mais jamais les maxima.
Vous disiez que Guillaume Rosier, que le cabinet du ministre avait pris contact avec vous, et même le ministre en personne, si j'en crois ce qu'il a déclaré hier soir sur BFM, où il a été question de votre site et de vous.
Je disais il y a quelques jours, pas de panique. Au rythme actuel, le million sera atteint le 8 juin 2021. Le million de personnes vaccinées, c'était l'objectif à la fin du mois de janvier. Vous comprenez qu'on s'interroge.
Qui a dit qu'on atteindrait un million
de vaccinés? Alors, c'est le site Covid Tracker qui fait ses calculs en regardant avec le rythme de vaccination.
Non, mais l'objectif a toujours été un million fin janvier.
Il le reste. J'ai appelé Guillaume Rosier qui s'occupe de Covid Tracker pour discuter avec lui, quelqu'un de très, très malin d'ailleurs, et c'est intéressant, c'est sympa de discuter avec lui. Encore une fois, le rythme de croisière, nous ne l'avons pas encore atteint.
Ouais, alors bon, on a l'impression que tout se passe bien là, mais en même temps, il n'est jamais arrivé que votre site irrite un peu le gouvernement, justement parce que vous faites le genre de projection là dont il est question, c'est-à-dire que vous dites, voilà, au rythme actuel, l'objectif d'un million, il sera atteint en 6 mois et pas en 1 mois. Vous n'avez jamais senti d'irritation au gouvernement?
Ah ben, je ne sais pas, il faut leur demander. En tout cas, ce n'est pas notre objectif. Hein. Vraiment, mon objectif et notre objectif, c'est ni d'irriter quelques gouvernements ou au contraire de le soutenir ou autre. Vraiment, notre objectif, c'est de faire des analyses les plus objectives possibles, les plus libres possibles, en essayant de mettre le plus possible dans le contexte les données pour vraiment comprendre les dynamiques. Et comme le disait très bien Madame Hill, j'ai vu beaucoup de journalistes ou autres prendre des points isolés, par exemple donc pour les décès avec les EHPAD, c'est catastrophique, mais aussi pour les cas ou pour plein d'autres données, où ça varie énormément dans la semaine, entre le week-end et la semaine, ça n'a aucun rapport. Donc bien sûr, il faut faire des contextualisations, des moyennes mobiles, etc. Mais donc mon objectif n'est vraiment pas ni de critiquer le gouvernement, ni au contraire...
Non, bien entendu,
Maintenant, est-ce que ça les a irrités? Je ne sais pas, il faut leur demander à eux.
Non, mais je prétends pas du tout que ce soit votre objectif, mais on sait que en toutes circonstances, et surtout dans une crise comme celle-ci, la maîtrise de l'information est un enjeu essentiel. Et là, on assiste à quelque chose qui est relativement sans précédent, c'est qu'un simple citoyen a l'information d'une manière plus rapide et plus efficace que les sources officielles. Donc, on peut concevoir qu'il y a un peu de frottement, quoi.
En tout cas, ça les a forcés à réagir, je pense, puisqu'ils m'ont contacté. Hein. Je rappelle, ce n'est pas moi qui ai contacté le ministère, c'est eux qui m'ont contacté pour essayer d'être plus transparent et de me communiquer des chiffres officiels sur les vaccinations. Donc c'est déjà un premier pas, puisque maintenant j'ai les chiffres officiels du ministère de la vaccination, mais maintenant j'aimerais aussi que le gouvernement publie ces chiffres de manière officielle et quotidienne et régulière. Voilà.
Parce qu'il ne les publie pas de manière quotidienne?
Ils ont dit qu'ils allaient le faire.
Vous, la vaccination, vous l'avez de manière quotidienne. Vous avez tous les jours le chiffre des vaccinés.
De manière quasi quotidienne. C'est de plus en plus régulier, mais de manière quasi quotidienne, j'ai le nombre de personnes vaccinées sur la journée et donc le cumul en faisant la somme depuis le début. Mais cette donnée n'est pas, je crois, officialisée par le ministère et n'est pas rendue publique autrement que via moi.
Mais vous l'avez comment alors, si ce n'est pas officiel?
Mais non, c'est officiel, mais ce n'est pas publié. Je veux dire, par exemple, sur le site du ministère ou ailleurs, on n'a pas cette donnée qui est publiée de manière quotidienne. Eux
mais
me la c'est-à-dire
que, attendez, non, mais,
privée,
attendez
ensuite, moi, je la publie sur Vaccin Tracker.
Juste pour que je comprenne, le ministère ne la publie pas, mais vous la donne à vous.
Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je leur demande de la publier pour que tout le monde y ait accès, et pas seulement moi, bien sûr. Ils m'ont dit que l'open data était en cours, que ça mettait du temps. Donc, ce qu'on appelle l'open data, c'est le fait de libérer les données de manière, de publier les données de manière vraiment publique et exhaustive. Ils m'ont dit que c'était en cours et que techniquement, voilà, il y avait encore quelques points de blocage techniquement pour que ce soit le cas.
Non, mais sans même parler d'open data, Guillaume Rosier.
J'aimerais bien qu'ils publient ce chiffre de manière publique quotidiennement.
Ouais. Mais sans même parler d'open data, si vous font un mail ou un texto ou je ne sais quoi pour vous donner le chiffre à vous, ils peuvent le mettre sur le site du ministère. Enfin, il y a quelque chose d'un peu étrange là. réflexion sur le phénomène Covid Tracker.
Oui, moi j'avais une question aussi sur la remontée d'informations. Est-ce que le gouvernement lui transmet les données sur les vaccinations en EHPAD et les données sur les vaccinations dans les centres? Est-ce qu'on a une différence qui est faite? Parce que c'est aussi intéressant de savoir s'il y a une montée en puissance de la vaccination uniquement dans les EHPAD et pas uniquement dans les centres de vaccination.
Non, c'est pas dans les EHPAD.
Question.
Alors non, j'aimerais des données plus exhaustives. Pour être tout à fait transparent, j'aurais même demandé ce matin s'ils avaient des données plus précises, notamment sur les régions, sur le nombre de personnes vaccinées par région, par tranche d'âge et par type d'établissement. Et donc, voilà. Donc à ce jour, je n'ai pas ces données. Je n'ai uniquement le nombre de personnes vaccinées sur le territoire national, sans distinction ni de région, ni d'établissement ou autre. Évidemment, j'aimerais avoir ces données pour avoir un suivi plus précis de la vaccination en France.
Alors, pour revenir à la question de savoir si c'est un naufrage français ou si on est simplement au début d'une campagne de vaccination, on a vu dans un premier montage que la tonalité générale était assez critique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'exemple du journaliste Patrick Cohen, ces tout derniers jours, sur France 5.
Patrick, une semaine après le début de la vaccination en France, on entend un déluge de critiques sur la lenteur du processus. Jusqu'à parler pour certains de scandale d'État. On est face à un scandale d'État.
Alors si c'est le cas, on pourra dire que jamais scandale n'aura été aussi annoncé à l'avance, planifié, médiatisé, puisqu'il suit parfaitement le plan de marche qui avait été détaillé par Jean Castex et Olivier Véran lors d'une conférence de presse le 3 décembre, sans que personne ne bronche. Il était prévu que la campagne démarre réellement dans les EHPAD le 18 janvier, dans 15 jours, pour les pensionnaires et les soignants, avec d'ici là, à partir d'aujourd'hui, 2 semaines de rodage. Mais avant même ce tour de chauffe, les premières injections ont été commentées comme un départ de course et un départ raté au vu des comparaisons ravageuses ou cruelles avec nos voisins. La stratégie de priorisation a été définie par la Haute Autorité de Santé. C'est un organisme indépendant qui, dès le 30 novembre, a dit en substance « il faut d'abord vacciner les plus fragiles, sauver des vies et ensuite seulement passer à la vaccination de masse ».
Alors, ce que nous dit là Cohen, c'est au fond, cette stratégie, on la connaissait depuis début décembre. Hein, depuis début décembre, ça choquait personne. Pourquoi tout le monde s'énerve aujourd'hui ? C'est une fausse polémique.
Alors, tout le monde s'énerve aujourd'hui parce qu'il semble bien que ce soit une vraie polémique, notamment à cause du fait que dans l'ensemble du monde, nous sommes de loin le pays le plus lent à ce niveau, y compris par rapport à nos voisins européens, ce que la presse internationale n'a pas manqué de faire remarquer, autant que la presse française d'ailleurs.
Et ça, on ne pouvait pas le savoir début décembre, que les autres seraient plus rapides que nous ?
Alors, c'est une remarque qu'a fait le journaliste Vincent Glade sur Twitter, qui suit l'épidémie de très très près sur le réseau social, en critiquant une enquête de Mediapart qui racontait justement les problèmes logistiques et stratégiques de la France. Vincent Glade faisait remarquer que, début décembre, Mediapart avait l'air de ne pas tiquer, comme d'autres médias d'ailleurs, comme en fait la quasi-totalité des médias, ce que dit justement Patrick Cohen. Par contre, les journalistes à cette époque-là n'ont pas cherché ou n'ont pas obtenu les plans internationaux qui étaient prévus, auquel cas ils se seraient aperçus immédiatement de la différence, ce qui est apparu une fois que la vaccination a été lancée. C'est une explication qui a été apportée par la journaliste santé de Mediapart, co-autrice de cet article. Il y a également un autre élément. Au moment où la conférence de presse est faite le 3 décembre, ne sont donnés ni les objectifs vaccinaux au 31 janvier. Les objectifs qui sont donnés sont à plusieurs mois.
C'est ça. C'est-à-dire début décembre, ils ont dit voilà où on en sera fin juin, c'est ça.
On veut vacciner une vingtaine de millions de personnes fin juin.
Sur un semestre.
Voilà. Et on n'avait pas de détails chiffrés sur le nombre de vaccins qui seraient livrés chaque semaine à la France. Et les journalistes ont effectivement découvert qu'il y avait 500 000 vaccins qui arrivaient par semaine, ce qui n'a pas manqué de les faire tiquer par rapport au nombre de vaccinés effectifs.
Ouais. Le sentiment de la biostatisticienne là sur ce débat, on voit bien effectivement que début décembre on disait fin juin on sera à combien ?
En 16 millions au départ et puis 24 millions ont été annoncés plus récemment. Ouais.
Et donc là aujourd'hui tout le monde s'énerve, y compris vous. Sur le départ qui est trop lent, etc. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas victime d'une espèce de biais court-termiste dans notre énervement ?
Mais non. Enfin, on a l'impression que toute la gestion de cette épidémie depuis le début n'a jamais pris en compte un aspect fondamental de la dynamique de ce virus, qui est qu'il va vite. Les gens sont contaminés un jour. S'ils deviennent symptomatiques, c'est autour du 5e jour. Et au bout du 10e ou du 12e jour, ils sont plus contagieux. Il faut aller vite. Donc dans cette histoire d'aller vite, avec 300 ou 400 morts par jour, attendre 15 jours pour mettre en place la vaccination dans les EHPAD, c'est vraiment cruel, c'est vraiment dangereux. Donc il y a une certaine urgence dans la gestion de cette épidémie. Et en fait, on n'a jamais pris conscience de cette urgence. On a testé n'importe qui, n'importe quand. Et la vaccination, on a prévu de commencer, de roder le système, etc. Mais il y a urgence, les gens meurent, il faut les protéger le plus vite possible.
D'accord. Enfin, Chaque jour qu'on perd, il y a quand même des gens. Il y a quand même quelques raisons qu'on va essayer d'examiner maintenant. Et tout ça nous amène d'ailleurs à la logistique. On va essayer de voir si, dans toute cette affaire, c'est la logistique qui pêche. Et je voudrais, pour introduire le débat, qu'on entende donc le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui était interrogé sur LCI, justement, sur cette lenteur, et qui, lui, était assez irrité de l'irritation de tout le monde.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce chiffre, c'est-à-dire qu'on serait ce soir autour de 200 personnes qui auraient bénéficié de l'injection d'une dose ce soir?
Oui, je pense que c'est exact. C'est factuellement exact, même si je ne suis pas sûr que ce soit une information très importante. Mais je réponds à votre question, c'est exact.
Même si une partie seulement des résidents des EHPAD souhaitent être vaccinés, pourquoi est-ce qu'on n'achemine pas comme le font nos voisins, qui eux aussi choisissent cette catégorie de population-là comme prioritaire? Pourquoi est-ce qu'on n'achemine pas ces doses de vaccins dans ne serait-ce qu'un millier de ces établissements, ce qui permettrait de raisonner en milliers et non pas en dizaines?
Cela va venir, c'est une affaire de logistique. Il faut apporter progressivement ces vaccins dans les différents sites. Il y en a 14 000 en France qui sont concernés. C'est une organisation, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions et il faudra éventuellement les interroger si vous le souhaitez, mais je sais que c'est une organisation extrêmement compliquée et franchement, je me permets de dire que la discussion telle que nous l'avons à la minute est un peu dérisoire. Cela se passera en France comme ça se passe dans les autres pays européens. Je pense que les comparaisons de nombre de personnes vaccinées au bout de quelques jours n'ont juste, excusez-moi, pas de sens.
Bon, alors, sans revenir sur le débat de chiffres, simplement sur ce que dit là Monsieur Vaccin, le Monsieur Vaccin du gouvernement, qui dit « Moi, je ne suis pas spécialiste de la logistique, j'y connais rien, interrogez les spécialistes. » Est-ce que ce n'est pas énorme que le Monsieur Vaccin du gouvernement exprime, reconnaît cette totale méconnaissance des questions logistiques ?
Je pense qu'effectivement, c'est un problème, et c'était, enfin, en tout cas, moi, ce que j'exprimais dans la tribune, c'est que au fond, ce qui pose problème dans la stratégie vaccinale, c'est qu'on a élaboré la stratégie d'abord sans à aucun moment penser les conséquences que cette stratégie allait avoir sur le plan logistique.
Et j'ai envie de vous dire, c'est le principe de toute stratégie. C'est-à-dire que théoriquement, en tout cas par exemple dans le domaine militaire, la stratégie précède la logistique.
Ça, c'est la vision un petit peu, entre guillemets, erronée des stratèges. Hein. Et il y a un certain nombre de stratèges qui soulignent justement que le bon stratège, c'est celui qui tient compte des contraintes logistiques pour justement chercher à s'en libérer. Mais en tout cas, il faut intégrer dès l'amont ces contraintes logistiques si on ne veut pas, effectivement, que la stratégie qu'on met en place ne rencontre de problème.
Et ça n'a pas du tout été le cas.
Quand on lit le document de la Haute Autorité de Santé, il y a toute une réflexion sur la stratégie vaccinale à mettre en place qui identifie effectivement donc, les résidents en EHPAD comme étant les premiers à vacciner, ce qui peut tout à fait s'entendre. Enfin, je veux dire, même si d'autres pays ont fait d'autres choix stratégiques, moi, je n'ai pas forcément de critique à faire là-dessus.
C'est-à-dire que quand on dit stratégie, soyons clairs, ça veut dire qui on priorise.
Voilà.
Et là où la logistique arrive, c'est dans la question du comment. Comment on fait.
C'est dans la question du comment. Mais alors, malgré tout, au stade de la conception de la stratégie, il faut aussi se poser la question de si on choisit cette stratégie, quelle logistique on va mettre derrière. Ça, forcément. Et je crois que ça n'a pas été très bien évalué parce qu'au fond, cette stratégie de cibler les EHPAD, dans un contexte où on n'a que le vaccin Pfizer disponible, qui doit être stocké à moins de 69 degrés, dans un contexte où on met en place la campagne de vaccination, ça conduit à ce qu'on ait une logistique très complexe. On va essuyer la logistique sur la population la plus compliquée parce que les résidents des EHPAD, il y a des personnes âgées, des gens qui ont Alzheimer. Le consentement est le plus compliqué à avoir dans ce contexte-là, parce qu'on ne va pas accuser le gouvernement de vacciner par contrainte des personnes âgées. Enfin, voilà, c'est un problème. Donc, premier problème. Deuxième problème, il y a des dizaines de milliers de points à toucher, alors que quand on met en place des vaccins de gros, on a 300, 400 points à toucher, donc c'est plus rapide. Donc, il y a plus d'étapes. Et puis, on a ce vaccin qu'on doit conserver, donc qui est complexe à conserver. Donc, c'est compliqué et c'est forcément une logistique qui va avoir plus d'étapes pour arriver jusqu'au patient et qui va donc, si vous voulez, c'est comme un robinet qu'on ouvre, qui va donc mettre plus de temps à atteindre son but. Donc mécaniquement, c'est une logistique qui est plus lente.
De ce que vous savez, à la Haute Autorité de Santé, je ne connais pas sa composition, il y a un ou des spécialistes de la logistique ?
Très clairement, dans Santé publique France, il y a des spécialistes de la logistique. Après, c'est très difficile d'avoir ces informations-là.
La composition de la Haute Autorité de Santé n'est pas publique ?
Non, on doit trouver les informations. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est la composition du groupe de travail qui a élaboré la stratégie vaccinale. Et donc, on voit bien qu'il ne ils n'ont pas parlé de logistique. Ils n'ont pas pris en compte cet aspect-là. Alors qu'ils ont pris en compte un aspect, entre guillemets, voilà, contexte sociologique français, rapport sur la vaccination, avec l'idée qu'il fallait prendre des précautions. Précautions qui, en plus, compliquent la logistique. Parce que il faut, on a prévu une consultation vaccinale avant, donc il faut s'assurer.
Alors, s'il faut rappeler, c'est que ce qui est prévu, c'est que effectivement, une consultation pré-vaccinale doit avoir lieu 5 jours au minimum, délai incompressible, si j'ai bien compris.
Alors, je crois que c'est faux. Mais les 5 jours, en fait, ils étaient plus nécessaires à la logistique, parce que si vous n'avez pas le consentement avant dans les EHPAD 5 jours auparavant. Vous comprenez bien que vous devez décongeler et envoyer les produits, donc vous devez avoir l'information et la visibilité sur la demande exacte que vous devez envoyer dans les EHPAD. Donc forcément, il faut anticiper et organiser le consentement en avance. Donc c'est plutôt l'enjeu logistique qui est qu'il faut sortir les vaccins du congélateur en avance et les amener, qui nécessite d'avoir cette information en amont.
D'accord. Mais est-ce qu'on sait, au fond, aujourd'hui, à quel point le système est au point ou pas? Par exemple, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que vous savez, parce que moi je ne sais pas, combien de congélateurs sont en place en France? Est-ce qu'ils sont en place aux endroits nécessaires pour pouvoir répondre aux objectifs de vacciner en priorité dans les EHPAD? On sait tout ça ou pas?
C'est difficile d'avoir ces informations-là parce qu'elles sortent au compte-gouttes. On a eu l'information que certains congélateurs ont été validés un petit peu tardivement, mais que certains n'étaient peut-être pas forcément disponibles. Mais on a l'impression, en tout cas, que les congélateurs sont là.
On a l'impression. On a des impressions. D'ailleurs, ce serait une idée pour Covid Tracker. Vous pourriez faire congélateur tracker et essayer de nous dire et de suivre la mise en place progressive de toute l'infrastructure.
Bien sûr, ce sera avec grand plaisir, mais on n'a aucune donnée là-dessus. Donc j'ai un métier à plein temps, je peux me permettre d'appeler tous les hôpitaux, etc., pour savoir combien ils ont de congélateurs. Mais si le gouvernement, si le ministère de la Santé ou Santé publique France ou la Direction générale de la Santé a ces données, évidemment que s'ils les publient, je me ferai un plaisir de pouvoir suivre cette logistique.
Demandez-le à Olivier Véran.
Tout ça dépend vraiment de l'ouverture des données. C'est pour ça que je milite énormément pour l'open data, pour l'ouverture des données. Une donnée devrait être publique, sauf s'il y a des problèmes d'anonymisation. Mais toute donnée devrait être publique, sauf s'il y a des problèmes d'anonymisation. C'est très important.
Puisque vous aviez Olivier Véran au téléphone tous les jours, demandez-lui.
je vais demander. Et donc, quelles données, par exemple, aimeriez-vous le nombre de congélateurs, c'est ça, par département?
Moi, je suis aussi pour l'open data le plus large possible. Oui, c'est incroyable qu'on ne soit pas mis au courant, si vous voulez, de la mise en place des congélateurs au fur et à mesure qu'ils arrivent, et même des livraisons de vaccins en temps réel. On nous dit 500 000 par semaine, mais est-ce qu'on a vraiment 500 000 par semaine?
On voudrait savoir ça. Mais des congélateurs à moins 80, il y en a dans tous les labos de recherche. Donc maintenant,
assez grand.
Je sais que dans les hôpitaux, il y a du vaccin. On commence à vacciner à la Pitié-Salpêtrière. M'ont dit mes interlocuteurs de la Pitié-Salpêtrière. Donc forcément, il y a du vaccin à la Pitié-Salpêtrière. On m'a dit aussi qu'à Gustave aussi, on allait commencer à vacciner le personnel. Donc il y a des doses qui arrivent.
Loris,
l'enquête de Mediapart, qui est la première vraie enquête journalistique approfondie sur cette question-là, établit que, en tout cas, dans les premiers jours après le lancement de la campagne de vaccination, il manquait en réalité la majorité des congélateurs prévus. Mediapart expliquait justement que la question de la logistique était absolument centrale dans tous ces délais. Selon les interlocuteurs, un raté ou tout simplement une stratégie qui était prévue au 18 janvier. Et beaucoup de fonctionnaires dans l'enquête de Mediapart expliquent avec colère qu'on leur a désormais demandé de tout changer à ce qui avait été prévu, ce qu'ils ne savent pas faire, en particulier à cause du fait que Santé publique France n'a pas eu les moyens qu'ils demandaient depuis des mois, et est dépourvue de la directrice chargée de la logistique qui doit être recrutée mais ne l'a toujours pas été, ce qui semble poser un certain nombre de problèmes.
Qui c'est qui n'a pas été recrutée, la directrice de la logistique à Santé publique France?
Voilà.
Réponse à la question que je posais tout à l'heure.
Et on peut revenir aussi sur l'origine de la constitution de Santé publique France, puisque ça a été un regroupement de 3 agences qui a été fait il y a 4 ou 5 ans, et qui a notamment intégré l'EPRUS, l'établissement de préparation de réponse aux urgences sanitaires, qui était chargé de gérer les stocks, chargé de gérer la logistique, et qui s'est retrouvé, entre guillemets, noyé dans Santé publique France, avec un budget unique pour Santé publique France. Et on imagine bien, évidemment, les enjeux qu'il peut y avoir entre les 3 agences. Et on voit bien que la logistique, entre guillemets, est un petit peu sacrifiée dans Santé publique France, qui a expliqué qu'au début de la crise, on était un petit peu dépourvu logistiquement de l'organisation qu'on aurait pu avoir en place.
On avait découvert d'ailleurs en avril dernier que c'est ce qui s'était passé avec le stock de masques, puisque c'était les Prusses qui étaient chargés de gérer
exactement,
le stock de masques.
Voilà.
Où on était déjà dans une question purement logistique, qui était une question pour alors non pas de distribution à l'époque, mais de stock. Vous disiez il faut aller plus vite, l'urgence, etc. Mais en même temps, quand le gouvernement répond qu'il existe aujourd'hui en France une méfiance considérable à l'égard des vaccins et donc il faut demander l'avis aux gens, un avis éclairé, je ne sais plus quels sont les termes d'ailleurs, c'est libre et éclairé, enfin, et qu'il faut prendre 5 jours de réflexion. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez comprendre ?
Bien sûr, c'est évident qu'il faut demander leur avis aux gens, mais il y a suffisamment de gens qui veulent être vaccinés, ça n'excuse pas de ne pas les vacciner ceux-là tout de suite. Donc, ce n'est pas prendre le problème par le mauvais bout, de se dire « Ah là là, il y en a qui ne vont pas vouloir, mais il y en a plein qui vont vouloir. Et si je viens et je dénude mon épaule gauche, préférablement parce que je suis droitière, et que je demande à être vaccinée, je considère que ça vaut consentement et que je n'ai pas besoin d'une usine à gaz pour avoir plus. » Donc, on peut vacciner déjà tous les gens qui veulent bien être vaccinés.
Si je peux me permettre, à mon avis, l'enjeu, c'est aussi de s'inspirer de la distribution classique. Dans la distribution classique, on a différents formats de distribution pour toucher le consommateur, l'hypermarché, le drive, la livraison au point relais, etc. Et on peut avoir cette même logique-là dans la vaccination. Les gens dans les EHPAD, il faut bien leur amener les vaccins, il faut bien organiser la logistique et la vaccination avec des médecins pour les vacciner, c'est clair. Donc ça, c'est un premier schéma. Tout un tas de gens qui sont en bonne santé pour la vaccination, on n'a pas besoin de prendre des temps infinis à leur expliquer et on peut les faire passer par des vaccinodromes. Dans un troisième temps, les gens qui sont des anti-vaccins pour lesquels ils vont avoir peut-être besoin d'une explication, d'une conversation avec un médecin, on peut passer par le médecin de ville. Donc il faut être capable de tenir compte à la fois des caractéristiques physiques des gens, on peut se déplacer ou on ne peut pas se déplacer, et du rapport au vaccin des gens qui va être simple ou compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut être capable de mettre en place.
Alors, on a vu ces tout derniers jours, pour en finir avec ces questions de logistique, une certaine émotion à la suite de la révélation, d'abord par Politico et ensuite par Le Canard Enchaîné, que le gouvernement avait fait appel à un cabinet privé, un cabinet de consultants, le cabinet McKinsey, sur toutes ces questions de logistique au sens large. Je ne sais pas très bien ce que ça recouvre. Est-ce que c'est une... sur le thème, mais c'est quand même incroyable, il devrait y avoir les compétences nécessaires dans l'administration, parmi les hauts fonctionnaires, les énarques. Pourquoi va-t-on chercher des cabinets de consulting américains ? Quelle est votre opinion là-dessus ?
Alors, moi, j'ai une opinion qui est que ce n'est pas illégitime d'aller chercher des cabinets de conseil. Il y a des gens qui sont très intelligents et très pertinents dans les cabinets de conseil, et McKinsey fait vraiment partie des cabinets de conseil en stratégie les plus réputés au sein du monde. Donc... les entreprises le font aussi, y compris quand elles organisent leur chaîne logistique. Donc,
les entreprises, c'est normal, j'ai envie de dire.
Oui, mais je veux dire, le recours à du conseil extérieur, moi, ça ne me choque pas en tant que tel. Maintenant, l'enjeu, c'est aussi d'avoir cette capacité d'ingénierie et de compétences logistiques au sein du gouvernement et ici au sein du ministère de la Santé. Et ça, je pense qu'il faut qu'elle soit développée et qu'elle est insuffisante. C'est plutôt ça pour moi qui est l'enjeu. Et je veux dire, on passe par des dépositaires qui sont des prestataires extérieurs et l'État n'a pas ses propres camions pour distribuer les vaccins. C'est pas choquant en tant que tel parce que ça fait pas forcément sens. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait en interne de l'État cette compétence logistique et ces gens qui soient capables de justement concevoir dans la stratégie les implications logistiques.
Alors, si on vous a invité, en tout cas, vous, Catherine Hill, et vous, Guillaume Rosier, c'est parce que depuis très longtemps, ou depuis quelques mois, en tout cas, on suit vos travaux à tous les deux, et qu'on a toujours trouvé, nous, ici, à Arrêt sur Image, que vous disiez beaucoup moins de bêtises que les autres, ou en tout cas, voire pas de bêtises du tout, même, ce qui est quand même relativement remarquable dans le débat public. Et pour vous, Guillaume Rosier, pour qu'on comprenne mieux l'histoire de votre site, ça a commencé dès le mois de mars dernier, en mars 2020. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes venu à devenir monsieur Covid Tracker ?
En fait, dans cette histoire, ce qui est amusant, c'est que j'ai jamais eu l'ambition de créer Covid Tracker, j'ai jamais eu l'ambition d'aller sur un plateau télé, enfin, j'ai vraiment eu jamais aucune ambition, ça s'est fait au fil de l'eau. Semaine après semaine et mois après mois, et surtout sous la pression de la demande très forte sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, j'ai commencé d'abord le 5 mars Finalement, on parlait très peu de l'épidémie en France. J'ai commencé à récupérer des données mondiales de l'université Johns Hopkins aux États-Unis sur le nombre de cas et le nombre de décès du coronavirus dans les différents pays. Et donc, j'ai commencé par faire un premier graphique pour comparer la France avec l'Italie. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en France, on suivait exactement la même tendance que l'Italie, la même tendance exponentielle. Bah, voilà, vous avez un des premiers graphiques, ici par exemple, le 11 mars, donc c'était très tôt. Et donc, on peut voir qu'il y avait exactement la même tendance en France et en Italie exponentielle, mais avec 8 jours de décalage en France par rapport à l'Italie. Et donc, en fait, on parlait tellement peu du coronavirus dans les médias, etc., que ce graphique, il m'a choqué. On se disait, oui, mais l'Italie, c'est différent, ils ont un système hospitalier plus fragile, etc. Et donc, ce graphique m'a choqué, j'ai commencé à le partager sur Twitter, j'avais très, très peu d'abonnés, je l'ai partagé à mes amis, à ma famille. Et puis, en quelques jours, en fait, tous ces gens-là ont été très intéressés et chaque jour, ils me redemandaient une mise à jour du graphique avec le nouveau point, la nouvelle donnée du jour pour voir si on suivait toujours la même tendance. Et donc, petit à petit, ensuite, je me suis dit, c'est assez pénible de refaire le graphique tous les jours, de l'envoyer par message à tout le monde, etc. Et donc, je me suis dit, je vais faire une page Internet. Au début, c'était guillaumerosier.fr. Hein. J'ai pris le nom de domaine à mon nom. Je me suis dit, ça me resservira pour mon CV. Et j'ai mis ce graphique sur le site Internet. J'ai donné le lien aux gens qui ont pu le consulter sans passer par moi. Et puis ensuite, de semaine en semaine, c'est devenu Covid Tracker parce qu'il y a eu 20 000 vues en une semaine alors que je m'attendais à ce qu'il y ait 3 vues, c'est-à-dire mes deux parents et moi. Voilà, il y a eu un engouement que je n'aurais jamais imaginé. Petit à petit, j'ai fait évoluer le site qui est devenu de plus en plus complet et qui aujourd'hui rassemble des millions de pages vues chaque mois. Quoi. Donc c'est assez rigolo l'histoire du site parce que j'ai jamais eu, à aucun moment, je me suis dit « je vais créer ce site-là ». Avec tel et tel graphique, etc. Et ça va devenir très populaire.
Alors, même s'il est encore perfectible, comme vous l'a gentiment fait remarquer, Catherine, il s'y présente. Et d'ailleurs,
Attendez, il est très perfectible. Et c'est pour ça que je prends avec grand plaisir et enthousiasme les remarques de Mme Hill. Et que, voilà, enfin, mon objectif, c'est d'améliorer toujours le site. Et donc, évidemment, je prendrai ces remarques en considération avec grand plaisir.
Alors, très perfectible. N'empêche qu'on y trouve plein de choses. Loris, on peut faire une petite exploration. C'est quoi Covid Tracker? Qu'est-ce qu'on y trouve? Tracker, pardon?
Oui, alors, on trouve sur Covid Tracker, qui est un site en évolution constante, effectivement, qui a été énormément enrichi et qui, aujourd'hui, en réalité, n'a pas grand-chose à envier en termes de données et de visualisation par rapport au site de très grandes institutions mondiales. Alors, évidemment, centré sur la France, mais dont la qualité est reconnue un peu partout. On peut y trouver, par exemple, voilà, ici, on va trouver les cas positifs et les réanimations. On va trouver un taux d'incidence. On va trouver des choses sur le taux de reproduction du virus. En réalité, toutes les données que produit l'État, quasiment toutes les données que produit l'État concernant l'épidémie, se retrouvent sur Covid Tracker. Et surtout, elles y sont mises en forme. Par exemple, si on va sur le dashboard France, elles y sont mises en forme d'une manière qui est extrêmement simple. Ici, on retrouve la vue d'ensemble que d'ailleurs, vous publiez chaque jour sur le compte Twitter de Covid Tracker, dont je sais qu'il est suivi par beaucoup de journalistes, puisqu'il permet très simplement d'avoir les données du jour, sachant que vous essayez d'indiquer les données les plus pertinentes par rapport à la situation actuelle en France. Donc elles peuvent varier, mais on va notamment y trouver ces deux fameux tableaux, alors celui de l'incidence à droite, mais surtout celui à gauche, qui regroupe les cas positifs, les personnes hospitalisées, les personnes en réanimation et les décès hospitaliers quotidiens, avec des moyennes sur 7 jours pour éviter de se faire avoir par le fait qu'un chiffre augmente ou baisse à cause de problèmes ou de différentiels de récolte des données.
Voilà, il y a les deux supports, hein. Il y a le site et il y a effectivement le compte Twitter, mais je crois que vous n'êtes pas sur Twitter, hein, Catherine Hill. C'est peut-être pour ça que vous n'étiez pas au courant de la mise à jour quotidienne.
Ah, mais moi, je ne suis pas sur Twitter et en fait, j'ai travaillé de façon indépendante et j'ai fait exactement la même chose. J'ai commencé avec le site de Johns Hopkins, j'ai commencé à comparer ce qui se passait dans les différents pays. Et maintenant, tous les jours, je télécharge le nombre de morts, le nombre d'admissions en réanimation, le nombre de cas, etc. Et je regarde et je surveille. Maintenant, pour les différents pays, j'utilise maintenant le site du Financial Times Coronavirus, qui est très, très bien fait. C'était agréable de voir qu'ils étaient arrivés à la même conclusion, qu'il fallait faire des échelles logarithmiques et des échelles arithmétiques. On a le choix entre les deux, qu'il fallait rapporter les chiffres à la population. Donc, comme je discute avec beaucoup de journalistes et ils me parlent de l'Allemagne, d'Israël, du Japon ou d'un truc, je leur dis, écoutez, d'abord, on va regarder. Et on regarde sur le site du Financial Times. Il faut regarder en bas quand on peut cliquer un peu en dessous. Oui. Encore en dessous, juste là où il y a la bande bleue traversée par du rose. Là, vous...
La bande bleue traversée
par un trait rouge. Non,
il faut remonter un peu, Adèle.
Et là, vous cliquez juste en dessous du FT Interactive Tool, juste en dessous de la bande bleue. Et là, vous avez un site, un truc interactif, où vous pouvez avoir les cas ou les morts, nouveaux ou cumulés, par 100 000 ou pas par 100 000. Non, non. Et enfin, on peut faire ce qu'on veut et on peut regarder. Et c'est, donc, je continue à le faire, à télécharger les données de Johns Hopkins, à refaire ses calculs, mais c'est idiot parce que là, c'est beaucoup mieux.
Le Financial Times. Financial Times, ils ont été en avance ou en retard sur Guillaume Rosier?
Ah, ils étaient surtout. J'en sais rien, mais on a tous fait pareil. C'était agréable de se dire que moi, j'étais arrivé à la main avec en téléchargeant les données de Johns Hopkins à la conclusion qu'il fallait faire comme ci, comme ça, rapporter à la population et tout. Et donc, c'est réconfortant. Tout le monde fait pareil. En fait.
Guillaume Rosier, ils ont été en avance ou en retard sur vous, le Financial Times?
Je ne sais pas du tout. Je pense qu'ils ont été en avance. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils étaient en avance. mais oui, je suis d'accord avec Madame Hill. Hein, j'adore leur site. Il est vraiment très, très bien. Je tiens à noter aussi le site de Our World in Data, qui est vraiment super bien pour les données du coronavirus. Au niveau mondial, c'est vraiment les deux meilleures références que j'ai. Wow. Voilà, après, Covid Tracker a plus un focus sur la France. Hein. Moi, j'utilise leurs données pour... j'utilise ce module de avoir une data pour le monde, parce que c'est meilleur, enfin, c'est un des meilleurs.
Alors, je voudrais signaler que effectivement, le site du Financial Times, en réalité, a une approche très similaire à celle de Guillaume Rosier, c'est-à-dire qu'au début, ils ont commencé petit, avec les données qu'ils avaient parfois rassemblées avec difficulté, et ils ont progressivement enrichi le site jusqu'à sa version actuelle, qui est extrêmement complète. Mais en réalité, vous n'étiez vraiment pas loin d'eux, Guillaume Rosier, sur les premiers jours de mars. Beaucoup de data journalistes ont été nettement plus lents que vous. Et la grande qualité de Covid Tracker en France, puisque effectivement c'est vraiment le site de référence de visualisation des données dans un contexte français, c'est sa lisibilité. Vous le disiez au début, c'était ce que vous vouliez faire, vous y êtes parvenu, en particulier par rapport aux données qui sont données par, qui sont en tout cas présentées par l'État.
Ouais, ça, on l'a dit.
Par exemple ce que présente l'État sur la page la plus facilement accessible par Google. Voilà. Oui. On vous laisse juger. Et par ailleurs, dans les rapports épidémiologiques de Santé publique France, qui sont très détaillés, parfois, après, par exemple, cette semaine, à la page 29, quelque chose comme ça, on retrouve les graphiques présentés par Guillaume Rosier, mais alors dans une version où les semaines sont numérotées, où c'est très difficile, en fait, de les lire, et ça ne semble pas destiné au grand public, en réalité.
D'ailleurs, ça ne l'est peut-être pas.
Destiné à qui ?
En réalité, on ne sait pas forcément à qui c'est destiné.
C'est dommage.
Oui. C'est dommage, oui.
C'est dommage.
C'est 60 pages, c'est illisible. Oui, c'est
Alors, il y a même des choses beaucoup plus fines hein, sur Covid Tracker.
Voilà. C'est le vrai petit plus médiatique de Covid Tracker. C'est tous ces outils qui sont présentés dans un onglet dédié. Par exemple, il y a quelques semaines, vous avez lancé le Covirisk qui permettait aux personnes souhaitant tout de même organiser des fêtes de fin d'année, des réveillons ou des rêves parties à 2500 personnes, de voir, en fonction de leur département, de l'incidence de la maladie telle qu'elle est disponible, du moins dans les données publiques, et avec le nombre de participants, de voir quel était le risque que quelqu'un atteint du Covid soit présent à ce dîner ou à cet événement.
Et ça marche toujours, ça, le Covirisk ?
Ça fonctionne toujours.
Si je veux savoir si ce week-end, mettons dans l'Indre-et-Loire, je souhaite inviter 8 copains à dîner, alors est-ce qu'on peut aller, Adèle, dans l'Indre-et-Loire, département 37 ? Voilà, l'Indre-et-Loire, nombre de personnes, 8. Et qu'est-ce que va me
1,6%.
J'ai 1,6% de risque qu'il y ait une personne positive.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que si on observe 100 événements tels que celui-ci, donc si on prend un hélicoptère et qu'on regarde 100 maisons différentes, dans 1,6, donc entre 1 et 2 de ces 100 événements, il va y avoir un positif qui pourra peut-être contaminer les autres personnes du foyer, évidemment, s'il est contagieux, s'il n'y a pas eu de respect des gestes barrières, etc., etc.
Avec le caveat quand même que les données d'incidence qui sont mises sur la table par Santé publique France n'ont rien à voir avec la fréquence du portage du virus dans la population.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est une sous-estimation considérable. Ce qu'ils appellent incidence, c'est le nombre de cas qu'on a trouvé divisé par la population d'Indre-et-Loire, par exemple. Parce que vous, 8 personnes en plus, est-ce qu'ils viennent d'Indre-et-Loire ou est-ce qu'ils sont arrivés comme vous de Paris ? Déjà, ça, c'est pas la même chose.
Ça, c'est vrai.
Et s'il y en a un qui vient de Strasbourg ou de je sais pas où.
Ah, ça, c'est vrai. On peut encore améliorer.
Ça marche pas.
On peut encore raffiner le calcul.
Si, ça marche parce qu'on peut sélectionner plusieurs départements. Si vous revenez dessus, on peut cliquer sur ajouter un département et donc prendre en compte les événements où plusieurs personnes viennent de plusieurs départements différents. Et pour le taux d'incidence, il est corrigé en étant doublé. Donc, on fait x2 sur le taux d'incidence. Et en bas de la page, on peut changer ce taux de correction. On peut, par exemple, faire x3 ou x1. Et donc, par défaut, il est doublé parce qu'en décembre, on détectait à peu près la moitié des cas.
Ça, c'est exactement le problème. Donc, si vous réfléchissez qu'aujourd'hui, on nous a dit il n'y a pas longtemps que 10% de la population avait été contaminée, 10% de 65 millions de Français métropolitains, ça fait 6 500 000. Et vous regardez combien de cas on connaît. On en connaît 2 millions, il faut demander à Covid Tracker, 2 millions 5, quelque chose comme ça. Donc, on est très, très loin du compte. Donc, il faut probablement multiplier par 3. Il y a eu au début, il fallait multiplier par 10. Les gens de la Sorbonne ont publié, il n'y a pas longtemps, un truc qui était en préprint, qui disait qu'entre le 13 mai et le 28 juin, les cas qu'on avait trouvés, c'était un cas sur 10. Il fallait multiplier par 10 à ce moment-là, les cas, pour avoir les vraies incidences. Donc, l'incidence qu'ils appellent... Je ne comprends pas qu'en Santé publique France, il y a des épidémiologistes. Je ne comprends pas qu'ils appellent l'incidence, le nombre de cas qu'on trouve rapporté à la population, quand on sait très bien que les nombres de cas qu'on trouve, c'est seulement une toute petite partie des cas. Donc, il y a quand même un problème d'indicateur très grave. En Angleterre, ils ont fait des sondages sur des échantillons représentatifs de la population. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 2% de positifs dans la population. Ce n'est pas l'incidence, d'ailleurs, c'est la prévalence. En testant un échantillon représentatif de la population britannique, L'avant-dernier sondage, c'était fin octobre, il y avait 1,3% de positifs. D'ailleurs, ce n'est pas britannique, c'est Angleterre, pas Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, juste l'Angleterre. 1,3% de positifs. Et maintenant, ils disent qu'au Royaume-Uni, il y a 2% de positifs. C'est une donnée très importante et Absolument. On ne l'a pas en France. On a des données d'incidence qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont juste... Combien on a trouvé, mais...
Alors, absolument. Et d'ailleurs, alors, à propos d'Angleterre ou de Royaume-Uni, je voudrais qu'on termine par le dernier événement en date qui nous a occupés sur le site et qui occupe tout le monde en ce moment, le risque et l'affaire de l'émergence du variant britannique. Et le risque a été un des premiers en France à alerter sur la gravité de ce variant britannique, sur lequel, jusqu'à il y a quelques jours encore... on avait l'impression que la presse sous-estimait un peu la gravité du phénomène.
Oui, alors le variant donc B11.1.7 ou variant britannique pour plus de simplicité a été détecté dès le 1er novembre en Angleterre. Il a été annoncé le 14 décembre. Dès le 14 décembre,
par les autorités britanniques.
Par les autorités britanniques au Parlement, les médias en ont parlé, mais
britanniques.
Les médias britanniques et français. Mais en fait, que ce soit les médias anglo-saxons ou français, nous disent les chercheurs, ils se sont malheureusement concentrés sur le fait du moment qui était l'inquiétude vaccinale, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que le vaccin ne posait pas de problème vis-à-vis du nouveau variant, et également sur ce que eux appelaient parfois la dangerosité, mais qui est en réalité la gravité des symptômes causés par ce variant, qui ne cause pas de différence. Ils se sont ensuite, début janvier, concentré sur le fait qu'on craignait ou on suspectait qu'il puisse être plus contagieux chez les enfants parce qu'il était plus répandu chez les enfants. Il semble que les dernières données disponibles font état surtout du fait que les écoles ayant été ouvertes plus longtemps et étaient ouvertes pendant le semi-confinement anglais, c'est pour ça qu'il s'est répandu plus rapidement chez les enfants.
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, en tout cas ces tout derniers jours, les médias se sont focalisés sur « oulala, attention, le variant britannique est plus contagieux et plus dangereux ». Chez les enfants, et ça, rien ne l'atteste. On est bien d'accord.
Ce n'est pas ce que les données indiquent.
Voilà. Mais en revanche, d'une manière générale, ce variant britannique est beaucoup plus inquiétant que ce qui a été dit au début.
De manière générale, et contrairement à ce qui était indiqué au début, par contre, le variant britannique est aujourd'hui suspecté, c'est de plus en plus confirmé, d'être plus contagieux pour l'ensemble des classes d'âge. Et ça, par contre, ça représente un risque absolument inimaginable, puisqu'on se retrouverait dans la situation de février dernier. C'est-à-dire que le virus ne cause pas plus de formes graves ou de morts parmi les gens qu'il contamine, Donc au niveau individuel, ça ne change rien. Par contre, il contaminerait beaucoup plus de gens. On parle là de centaines de milliers de personnes supplémentaires en quelques semaines par rapport au virus, aux différentes mutations actuelles du virus. Et cet effet, contrairement à la gravité des formes, est un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'une personne qui est plus contagieuse contamine plus de gens une semaine, mais ces nouvelles personnes contaminées contaminent à leur tour plus de gens la semaine d'après. Et c'est cet effet cumulatif.
Est-ce qu'on est dans une exponentielle ?
C'est cet effet cumulatif qui avait causé l'exponentielle de février et de mars et qu'on risque de voir se reproduire, y compris avec des mesures relativement strictes. C'est du moins ce qui se passe en Angleterre.
Sur le variant britannique ?
Donc il y a deux choses. Ce virus est plus contagieux, mais la maladie est la même, elle n'est pas plus grave. Donc un virus qui est plus contagieux, il a un avantage sur les autres variants. Parce que forcément, si chaque personne, au lieu de contaminer deux personnes, en contamine trois, celui-là va rapidement dominer l'affaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est aperçu qu'il était plus contagieux en Angleterre, en regardant juste la proportion du variant, qui était de 20 et quelques pourcents, et que d'un coup, assez rapidement, s'est retrouvé 60%. Ça veut dire qu'il a un avantage sur les autres, c'est qu'il contamine plus, donc il gagne du terrain plus vite. Donc c'est toujours la même histoire, c'est une histoire de dynamique. C'est pour ça que la dynamique, c'est très important. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on fait très peu de séquençage. Et là, on est en train d'essayer d'organiser un peu de séquençage du virus. Mais j'ai relu un tweet, je lis quand même les tweets, parce que mes associés m'envoient des tweets. Et on voit qu'ils parlent de séquencer un échantillon représentatif. Mais ils n'ont aucune idée, c'est juste un mot qu'ils utilisent, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est qu'un échantillon représentatif. Ce n'est pas les virus qu'on a dans son frigidaire. Les autorités.
Pour donner une idée de ce que dit Catherine Hill, les Anglais qui sont très en avance sur le reste des pays du monde en termes de séquençage du virus et de ses évolutions, séquencent à peu près 1000 virus, là où la France en séquence entre 10 et 100. Donc ils ont une bien meilleure visibilité sur ce qu'il se passe réellement dans le pays à l'instant T, notamment si on le combine à ces sondages qui sont effectués sur les personnes positives.
Mais ça tient à quoi ? Ça tient à un sous-financement de la recherche publique ? Ça tient à une tradition qui est différente en France et en Angleterre ? Ça tient à quoi ?
Je ne comprends pas. J'ai été contactée par le PDG d'Ipsos France qui m'a signalé ces sondages successifs faits sur des échantillons représentatifs de la population en Angleterre. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait en France. Ce n'est pas très compliqué. Les organismes de sondage vous définissent des échantillons. Vous allez prélever ces gens-là. Et ceux qui sont positifs, vous séquencez le virus. Nom d'un chien, il n'y a pas de difficulté conceptuelle à ça. Et avec tout l'argent qu'on a dépensé à tester à tort et à travers la population, on aurait pu faire ça depuis très longtemps. Et c'est le moment de le faire.
Les sondeurs, ils servent à quoi dans l'affaire ?
À vous dire qu'il vous faut que vous alliez prélever Monsieur Tartampion et Madame Machin, et ce jeune-là, parce que ça va vous faire un panel non sélectionné, comme on fait un sondage, un panel non sélectionné dans lequel il y aura des vieux, des pauvres, des riches, des obèses, des machins, des trucs, et des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et vous aurez un échantillon représentatif de la population française, dans lequel vous aurez un échantillon représentatif des positifs et un échantillon représentatif des virus séquencés qui circulent dans le pays. Voilà. Alors, sinon, on ne fait pas ça.
L'observateur des données françaises, là, comment il se situe par rapport aux données disponibles sur ce nouveau variant, le variant britannique ? On n'en a aucune, on en a un peu, on en a assez, on n'en a pas assez, il en faudrait plus ?
Ah ben, l'observateur, il n'a aucune donnée. Ça pose problème. On a un point de données qui est ce qu'a annoncé M. Olivier Véran hier. Il a dit, enfin, le gouvernement... en disant que 19 personnes avaient été détectées positivement avec le variant anglais et 3 avec le variant sud-africain. Ouais. Dans son rapport de 60 pages de Santé publique France publié hier soir, ils ont publié, je crois, 2 ou 3 points de données, hein, c'est-à-dire les 2 ou 3 premières semaines, les 2 ou 3 dernières semaines. Donc on a 3 points de données, si vous voulez. Donc avec ça, moi, je ne peux rien faire. Si vous voulez, je peux faire un graphique avec 3 points, mais ça n'aura pas de signification. Donc évidemment que j'adorerais avoir des données beaucoup plus précises, le nombre de cas chaque jour. Mais tout ça, ça va dépendre aussi, comme l'a dit Mme Hill, d'un séquençage beaucoup plus massif. Parce qu'aujourd'hui, voilà, sinon que 3 points de données, on ne peut rien faire avec ça. Enfin, si on loupe la plupart des cas positifs avec ces variants, on peut absolument pas anticiper l'évolution. Alors, je crois qu'il a été demandé par le ministère au réseau Aubépine, qui a un projet de recherche sur l'analyse des eaux usées, je crois qu'il leur a été demandé de séquencer justement les virus détectés dans les eaux usées pour voir la proportion de ces variants en circulation en France.
C'est une bonne idée,
c'est une très bonne idée. On n'a pas assez utilisé les eaux usées, c'est formidable. C'est le test groupé, c'est la version ultime du test groupé. C'est-à-dire, vous allez à la sortie d'une petite ville, vous prélevez les eaux usées, vous regardez s'il n'y a pas de virus, s'il n'y a personne qui est positif, qui crache du virus à l'instant T, enfin qui excrète du virus à l'instant T. S'il y en a, on peut avoir une idée de c'est quoi ces virus qui sont là. Oui, ça, c'est une très, très bonne idée.
Oui, je voudrais parler un tout petit peu du réseau Aubépine. Je me suis entretenu avec eux.
Alors, le réseau Aubépine, c'est quoi le réseau Aubépine, pardon?
Alors, en fait, le réseau Aubépine, c'est une équipe de recherche. Donc, je me suis entretenu avec eux il y a quelques semaines. Ils ont installé depuis mars une centaine de capteurs dans une centaine de stations de traitement des eaux usées en France, de manière à détecter le coronavirus, d'une part, mais en plus à quantifier, donc voir la quantité de coronavirus dans ces eaux usées. Alors, c'est très complexe parce qu'en fait, les données brutes sont très compliquées à analyser parce qu'en fait, c'est très compliqué de quantifier la présence de coronavirus et notamment, ça dépend, par exemple, de la quantité de pluie en bord de mer. Ça dépend de s'il y a eu des vagues qui sont allées dans les eaux usées et donc qui diluent le coronavirus. Donc, c'est des traitements très compliqués. Mais ils ont fait un modèle statistique qui permet donc de comparer les villes entre elles. Et je crois qu'ils ont des résultats très intéressants aujourd'hui. Et c'est extrêmement intéressant puisque, comme l'a dit Mme Hill, ça ne dépend pas de la capacité de testing. Donc, c'est beaucoup plus représentatif que les tests. Et puis, en plus, c'est en avance par rapport aux tests parce que quand les gens se font tester, ils attendent 2 ou 3 jours. Enfin, il faut la période d'incubation, ensuite les symptômes, ensuite ils attendent 2 ou 3 jours. Ensuite, on met 2 jours à analyser le test, donc on a 1 semaine ou 10 jours de retard.
Mais et ce réseau Aubépine, c'est un réseau privé, étatique, c'est quoi exactement?
Il appartient aux communes, il me semble, c'est-à-dire que l'équipe de recherche coordonne tout ça et analyse les données. Il faut leur demander pour avoir plus de précision, mais je crois que les capteurs appartiennent aux communes et donc les données appartiennent aussi aux communes et une charte de confidentialité a été signée, donc ils ne peuvent pas, le réseau Aubépine, eux-mêmes publier les données des capteurs.
Donc, j'ai été contactée aussi au début par ces gens qui faisaient le dépistage du virus dans les eaux usées. Donc, j'ai lu, ils m'envoyaient des données, ils m'envoyaient des rapports, j'ai regardé ce qu'ils ont fait. C'est très, très intéressant. C'est dommage, ça a été très peu sous-utilisé. Il y a quand même les pompiers à Marseille qui se sont mis à faire ça. Très bien, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils avaient trouvé qu'il y avait un cas dans une EHPAD que personne n'avait trouvé parce que c'était un asymptomatique. Les asymptomatiques passant sous le radar.
Mais si je vous comprends bien l'un et l'autre, c'est quand même un grave problème que les données concernant le variant britannique ne soient pas recherchées de manière plus intense. On est bien d'accord.
C'est en train de se mettre en place et on va s'apercevoir qu'il y en a partout. Et de toute façon, l'épidémie va s'accélérer à cause de ça. Ça, c'est quand même assez probable.
C'est assez probable.
Bah oui, si vous avez un virus qui a un avantage sur les autres virus, il a tendance à gagner du terrain.
Très bien, merci. Dites-moi, mais je me pose la question depuis le début de l'émission, Guillaume Rosier, mais vous faites ça, c'est un boulot à plein temps ce que vous faites là. Vous avez un boulot à côté, comment ça se passe?
Je suis consultant en informatique, j'ai un métier à plein temps et je fais Covid Tracker le midi, le soir, la nuit et le week-end, en dehors de mes journées de travail.
C'est incroyable, non?
Vous trouvez pas? Oui, mais il y a toujours eu des gens comme ça qui se débrouillaient. Au début, il y avait ce Thomas Pueyo qui était en Californie, qui a mis plein de données sur la table. Moi, je me suis beaucoup servi de ça. Ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Ça m'a beaucoup. C'était utile. Donc, c'était des gens qui sont un peu quantitatifs. C'est ça qui manque, en fait, dans ce pays.
Oui, on a vu notamment, quand on regarde le cas taïwanais, ce qui est aussi la réussite du cas taïwanais, c'est leur capacité à intégrer des gens qui ont développé des applications, amélioré les applications du gouvernement et été en support, entre guillemets, du gouvernement, avec un gouvernement qui suscitait aussi leur aide. Quoi. C'est aussi quelque chose qui est très important.
Alors qu'ici, il n'y a pas de coopération. Si on leur dit, on est quand même arrivé avec ma bande auto-sélectionnée, on a fait un projet de dépistage de masse avec des prélèvements salivaires et des tests groupés. Et finalement, on est arrivé jusqu'à M. Macron, qui nous a renvoyé sur M. Véran, qui nous a renvoyé sur la Haute Autorité de Santé, qui nous a expliqué que le dépistage de masse, ils étaient contre, les prélèvements salivaires, ils étaient contre, et les tests groupés, ils étaient contre. Donc nous en sommes là. Nous sommes encore en train de négocier avec la Haute Autorité de Santé pour leur expliquer que quand on trouve du virus dans le nez, donc quand on fait un prélèvement dans le nez et dans la salive à la même personne, qu'on technique les 2 prélèvements par un test PCR, et qu'on trouve du virus dans la salive et qu'on ne trouve pas dans le nez, ça n'est pas forcément un faux positif de la salive, ça peut être un faux négatif du prélèvement nasopharyngé. Voilà où en est la discussion.
Parfait. Bah, écoutez, espérons que cette émission fera avancer les choses dans ce sens. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouvel Arrêt sur Image.